Conversation avec Dieu, tome 1, de Neil Donald Walsh. Introduction. Vous êtes sur le point de vivre une expérience extraordinaire. Vous êtes sur le point d'entrer en conversation avec Dieu. Oui, je sais, ce n'est pas possible. Vous croyez probablement, ou on vous l'a enseigné, que ce n'est pas possible. On peut parler à Dieu, bien sûr, mais pas avec Dieu. Écoutez, Dieu ne va tout de même pas répondre. En tout cas, pas sous la forme d'une conversation. C'est ce que je croyais, moi aussi. Alors ce livre s'est manifesté à moi. Et je l'entends littéralement. Ce livre n'a pas été écrit par moi. Il s'est manifesté à moi. Et lorsque vous le lirez, il va se manifester à vous. Car nous sommes tous amenés à la vérité que nous sommes prêts à recevoir. Ma vie serait probablement beaucoup plus simple si j'avais gardé tout cela pour moi. Mais ce n'est pas dans ce but que cela s'est manifesté à moi. Et malgré les inconvénients que ce livre pourrait me causer, tels que des accusations, de blasphème, d'usurpation, d'hypocrisie, pour n'avoir pas vécu ces vérités dans le passé, ou celles, peut-être pire encore, de sainteté, il ne m'est plus possible d'arrêter ce processus. Ce n'est pas non plus mon intention. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de me dissocier de toute cette affaire, et je n'en ai pas profité. J'ai décidé de m'en tenir à ce que me dictait mon instinct, plutôt qu'à l'opinion des autres, quant au contenu de ce livre. Cet instinct me dit que ce livre n'est ni un tissu d'idiotie, ni la surchauffe d'une imagination spirituelle frustrée, ni la simple justification d'une vie d'égarement. Oh, j'ai pensé à tout cela en détail. Puis j'ai fait lire ce manuscrit par quelques personnes. Elles ont été émues, elles ont pleuré, elles ont ri, car il y a de la joie et de l'humour. Et leur vie, m'ont-elles dit, a changé. Elles étaient saisies, elles retrouvaient leur pouvoir. Beaucoup m'ont dit que cela les avait transformées. Dès lors, je savais que ce livre était destiné à tout le monde, et qu'il fallait le publier, car c'est un cadeau merveilleux pour tous ceux qui cherchent vraiment des réponses et qui s'intéressent vraiment aux questions, pour tous ceux qui ont entrepris une quête de vérité avec un cœur sincère, une âme assoiffée et un esprit ouvert. Et c'est, pour une grande part, nous tous. Ce livre traite de la plupart des questions, sinon toutes, que nous nous sommes posées sur la vie et l'amour, le but et la fonction, les gens et les relations, le bien et le mal, la culpabilité et le péché, le pardon et la rédemption, la voie qui mène à Dieu et le chemin de l'enfer, de tout. Il aborde directement le sexe, le pouvoir, l'argent, les enfants, le mariage, le divorce, le travail, la santé, l'au-delà, le prêt, maintenant, tout. Il explore la guerre et la paix, la connaissance et l'ignorance, le fait de donner et le fait de recevoir, la joie et la peine. Il envisage le concret et l'abstrait, le visible et l'invisible, la vérité et l'absence de vérité. On peut dire que ce livre est le dernier mot de Dieu à propos de tout, bien que certaines personnes puissent s'en trouver quelque peu contrariées, surtout si elles croient que Dieu a cessé de parler il y a 2000 ans, ou que, si Dieu a vraiment continué à communiquer, ça n'a été qu'avec des saints, des sorcières, ou quelqu'un qui a médité pendant 30 ans, ou était bon pendant 20 ans, ou du moins à demi correct pendant 10 ans. Je n'entre dans aucune de ces catégories. En vérité, Dieu parle à chacun, au bon et au mauvais, au saint et à la fripouille. Et certainement à nous tous qui sommes entre les deux. À vous, par exemple. Dieu est venu à vous de bien des façons au cours de votre vie. Et en voici une autre. Combien de fois avez-vous entendu le vieil axiome « Quand le disciple est prêt, le maître apparaît » ? Ce livre est notre maître. Les premières fois que le contenu de ce livre s'est manifesté à moi, je savais que je parlais à Dieu. Directement, personnellement, irréfutablement. Et ce Dieu répondait à mes questions en proportion directe de ma capacité de comprendre. C'est-à-dire qu'il me répondait de certaines façons et dans un langage que Dieu savait que je comprendrais. C'est ce qui, en grande partie, explique le style familier de l'écriture et des références occasionnelles que j'avais tiré d'autres sources et d'expériences antérieures de ma vie. Je sais maintenant que tout ce qui m'est arrivé dans ma vie m'est venu de Dieu, et que c'était à présent assemblé, rassemblé, en une réponse magnifique et complète à toutes les questions que je m'étais posées. Quelque part, en cours de route, je me suis rendu compte qu'un livre était en train de s'écrire. Un livre destiné à être publié. En fait, durant la dernière partie du dialogue, en février 1993, j'ai appris de façon précise qu'il y aurait 3 livres. De dimanche de Pâques en dimanche de Pâques, pendant 3 années consécutives, et que le premier se rapporterait principalement à des sujets personnels, comme les défis et occasions qui se présentent dans la vie d'un individu. Le deuxième traiterait de sujets mondiaux, de la vie géopolitique et métaphysique sur la planète, et des défis qu'affronte actuellement le monde. Le troisième se rapporterait à des vérités universelles de l'ordre le plus élevé et des défis et occasions qui attendent l'âme. Voici le premier de ces livres, terminé en février 1993. À mesure que je transcrivais ce dialogue à la main, j'ai souligné ou encerclé des mots et des phrases qui se manifestaient avec une emphase particulière, comme si Dieu les faisait retentir, et dans la mise en page, ils ont été placés en italique. Ayant lu et relu les paroles de sagesse que renferme ce livre, je dois dire que je suis profondément gêné à l'égard de ma propre vie, qui a été marquée par une suite d'erreurs et de mauvaises actions, de comportements très honteux, et de choix et décisions que, j'en suis certain, d'autres trouveraient blessants et impardonnables. Bien que je ressente un profond remords, parce que cela s'est fait aux dépens d'autres personnes, j'ai peine à exprimer ma reconnaissance pour tout ce que j'ai appris, et j'ai découvert que j'ai encore des choses à apprendre, grâce aux gens qui font partie de ma vie. Je présente mes excuses à toutes ces personnes pour la lenteur de cet apprentissage. Cependant, Dieu m'encourage à me pardonner mes erreurs et à ne pas vivre dans la peur et la culpabilité, mais à toujours essayer, continuer d'essayer, de réaliser une vision plus grandiose. Je sais que c'est la volonté de Dieu en ce qui nous concerne tous. Neil Donald Walsh, Central Point, Oregon, Noël 1994. Chapitre 1. Au printemps 1992, c'était aux alentours de Pâques, je me rappelle, un phénomène extraordinaire est survenu dans ma vie. Dieu s'est mis à vous parler, à travers moi. Permettez-moi de vous expliquer. À l'époque, j'étais très malheureux, au point de vue personnel, professionnel et émotionnel. Et ma vie semblait être un échec à tous les niveaux. Comme j'avais l'habitude, depuis des années, de consigner mes pensées dans des lettres, que je n'envoyais presque jamais, j'ai pris mon bon vieux bloc-notes jaune, format légal, et je me suis mis à y déverser mes sentiments. Cette fois-ci, plutôt que d'écrire une autre lettre à une personne dont je me croyais victime, je me suis dit que j'irais droit à la source, droit au plus grand de tous les bourreaux. J'ai décidé d'écrire une lettre à Dieu. C'était une lettre pleine de dépit et de passion, de confusion, de contorsion et de condamnation, remplie d'une foule de questions furieuses. Pourquoi ma vie allait-elle mal ? Qu'est-ce qu'il me fallait faire pour qu'elle fonctionne ? Pourquoi ne pouvais-je trouver le bonheur dans les relations personnelles ? Allais-je à tout jamais manquer d'argent ? Finalement, et par-dessus tout, qu'avais-je fait pour mériter cette vie de lutte incessante ? À ma grande surprise, pendant que je griffonnais la dernière de mes questions amères et insolubles, et que je m'apprêtais à poser la plume, ma main est restée suspendue au-dessus du papier, comme retenue par une force invisible. Soudain, la plume s'est mise à bouger d'elle-même. Je n'avais aucune idée de ce que j'étais sur le point d'écrire, mais, comme une idée semblait émerger, j'ai décidé de la laisser se dérouler. Et c'était « Veux-tu vraiment une réponse à toutes ces questions, ou es-tu seulement en train de te défouler ?» J'ai cligné des yeux, puis mon esprit a formulé une réponse. Je l'ai écrite à la suite. Les deux à la fois. Je suis en train de me défouler, c'est certain, mais s'il existe des réponses à ces questions, j'aimerais diablement les entendre. Il y a une foule de choses que tu aimerais diablement, mais ne serait-il pas agréable d'aimer divinement ? Et j'ai écrit, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Sans m'en rendre compte, je venais d'amorcer une conversation, et je n'écrivais pas vraiment, je prenais une dictée. Cette dictée s'est poursuivie pendant 3 ans, et, à l'époque, je n'avais aucune idée de son aboutissement. Les réponses que je couchais sur papier ne me venaient jamais avant la fin des questions, et avant que j'aie écarté mes propres pensées. Souvent, les réponses étaient plus rapides que mon écriture, et je me trouvais à gribouiller pour tenir le rythme. Lorsque je manquais de clarté ou que je perdais le sentiment que les mots arrivaient d'ailleurs, je posais la plume et me détachais du dialogue jusqu'à ce que je sente à nouveau l'inspiration. Désolé si le seul mot qui vienne vraiment. De retourner au bloc-notes jaune, format légal, et de reprendre la transcription. Au moment où j'écris ces lignes, ces conversations se poursuivent encore, et on en trouve une grande partie dans les pages qui suivent. Des pages qui contiennent un ahurissant dialogue qui, au départ, m'a laissé incrédule. Puis qui m'a semblé n'avoir qu'une valeur personnelle, mais qui, je le comprends maintenant, n'était pas destiné qu'à moi. Il vous était destiné à vous et à tous ceux qui sont entrés en contact avec ce livre, car mes questions sont aussi les vôtres. Je veux vous laisser entrer dès que possible dans ce dialogue, car ce qui compte vraiment, ici, ce n'est pas mon histoire, mais la vôtre. C'est l'histoire de votre vie qui vous a amené ici. C'est par rapport à votre expérience personnelle que ce livre est applicable. Autrement, vous ne seriez pas ici en train de le lire, maintenant. Alors, entrons dans le dialogue avec une question que je me posais depuis très longtemps. Comment Dieu parle-t-il et à qui ? Lorsque je l'ai posée, voici la réponse que j'ai reçue. Je parle à chacun, tout le temps. La question n'est pas à qui je parle, mais qui écoute ? Intrigué, j'ai demandé à Dieu d'élaborer à ce sujet. Voici ce que Dieu a dit. Tout d'abord, remplaçons le mot « parler » par « communiquer ». C'est un bien meilleur terme, plus riche, plus précis. Lorsque nous essayons de nous parler, moi à toi, toi à moi, nous sommes immédiatement contraints par l'incroyable limite des mots. Voilà pourquoi je ne communique pas seulement en paroles. En réalité, je le fais rarement. Je communique le plus souvent par le sentiment. Le sentiment est le langage de l'âme. Si tu veux savoir ce qui est vrai pour toi en ce qui concerne une chose précise, observe comment tu te sens par rapport à celle-ci. Les sentiments sont parfois difficiles à découvrir et souvent même plus difficiles à reconnaître. Mais ta vérité suprême se trouve tapie dans tes sentiments les plus profonds. Il s'agit d'arriver à ces sentiments. Je te montrerai comment à nouveau, si tu le souhaites. J'ai alors dit à Dieu que je le souhaitais vraiment, mais qu'à présent, je souhaitais encore davantage recevoir une réponse entière et complète à mes questions. Voici ce que Dieu m'a dit. Je communique aussi par la pensée. La pensée et les sentiments ne sont pas la même chose, même s'ils se produisent parfois en même temps. En communiquant par la pensée, j'utilise souvent des images. C'est pourquoi les pensées sont plus efficaces que les seules paroles, en tant qu'outil de communication. En plus des sentiments et des pensées, j'utilise également le véhicule de l'expérience pour communiquer intensément. Finalement, lorsque les sentiments, les pensées et l'expérience échouent, j'utilise des paroles. En vérité, les paroles sont l'outil de communication le moins efficace. C'est l'outil le plus souvent ouvert à l'interprétation, le plus souvent mal compris. Pourquoi donc ? À cause de la nature des paroles. Les paroles ne sont que des émissions de sons, des bruits, qui représentent les sentiments, les pensées et l'expérience. Ce sont des symboles, des signes, des insignes. Elles ne sont pas la vérité, elles ne sont pas ce qu'elles représentent. Les paroles peuvent t'aider à comprendre quelque chose. L'expérience te permet de connaître. Cependant, il y a des choses dont tu ne peux faire l'expérience. Je t'ai donc donné d'autres outils de connaissance. On les appelle les sentiments et les pensées. L'ironie suprême, c'est que tu aies accordé autant d'importance à la parole de Dieu et si peu à l'expérience. En fait, tu accordes si peu de valeur à l'expérience que lorsque ton expérience de Dieu diffère de ce que tu as entendu dire de Dieu, tu écartes automatiquement l'expérience et tu acceptes les paroles, tandis que ça devrait être exactement le contraire. Ton expérience et tes sentiments à propos de quelque chose représentent ce que tu en sais de manière factuelle et intuitive. Les paroles ne peuvent servir qu'à symboliser ce que tu sais. Elles peuvent souvent embrouiller ce que tu sais. Voilà donc les outils avec lesquels je communique, et pourtant, ce ne sont pas les méthodes, car les sentiments, les pensées et l'expérience ne viennent pas tous de moi. D'autres ont prononcé bien des paroles en mon nom. Bien des pensées et bien des sentiments ont été parraines, par des causes que je n'avais pas directement créées. Il en résulte bien des expériences. Le défi, c'est d'avoir suffisamment de discernement. La difficulté, c'est de connaître la différence entre les messages de Dieu et les données provenant d'autres sources. Cette distinction devient simple lorsqu'on applique une règle de base. Ta pensée la plus élevée, ta parole la plus claire, ton sentiment le plus magnifique viennent toujours de moi. Tout le reste provient d'une autre source. Ce travail de distinction devient alors facile, car même le débutant ne devrait avoir aucune difficulté à identifier ce qu'il y a de plus élevé, de plus clair et de plus magnifique. Je te donne toutefois les indications suivantes. La pensée la plus élevée est toujours celle qui renferme la joie. Les paroles les plus claires sont celles qui contiennent la vérité. Le sentiment le plus magnifique est celui que tu appelles amour. Joie, vérité, amour. Les trois sont interchangeables et l'un mène toujours aux autres. Peu importe dans quel ordre on les place. Une fois qu'on a distingué à l'aide de ces indications mes messages de ceux qui proviennent d'une autre source, il ne reste plus qu'à savoir si mes messages seront entendus. La plupart ne le sont pas. Certains parce qu'ils semblent trop beaux pour être vrais, d'autres parce qu'ils semblent trop difficiles à suivre. Un grand nombre d'entre eux parce qu'ils sont tout simplement mal compris. La plupart parce qu'ils ne sont pas reçus. Mon messager le plus puissant est l'expérience, et même celui-là tu l'ignores. Surtout celui-là tu l'ignores. Ton monde ne serait pas dans cet état actuel si tu avais tout simplement été à l'écoute de ton expérience. Puisque tu n'as pas écouté ton expérience, tu continues de la revivre à répétition. Car mon but ne sera pas contrecarré, ni ma volonté ignorée. Tu recevras sûrement le message, tôt ou tard. Mais je ne t'y obligerai pas, je ne te forcerai jamais, car je t'ai donné un libre arbitre, le pouvoir de faire ce que tu veux, et je ne te le retirerai jamais. Ainsi, je continuerai de t'envoyer les mêmes messages, encore et toujours, à travers les millénaires et dans tous les coins de l'univers que tu occupes, à l'infini. Je t'enverrai mes messages jusqu'à ce que tu les aies reçus et accueillis en les considérant comme les tiens. Mes messages arriveront sous 100 formes à 1000 moments sur 1 million d'années. Si tu écoutes vraiment, tu ne pourras les manquer. Lorsque tu les auras vraiment entendus, tu ne pourras les ignorer. Ainsi, notre communication deviendra sérieuse. Car, dans le passé, tu t'es contenté de me parler, de me prier, d'intercéder auprès de moi, de m'implorer. Mais maintenant, je peux te répondre, comme d'ailleurs je suis en train de le faire en ce moment.